c'est le journal sur RFI. Il est 14h à Damas, midi à Paris.
Théo Renaudon.
À la une de cette édition, comme un air de règlement de compte en Syrie, où des sites alaouites sont pris pour cible et où un haut dignitaire de l'ancien régime a été arrêté jeudi. Analyse dans ce journal. L'ancienne maîtresse de la Syrie, la République islamique d'Iran, a arrêté une journaliste italienne, précision à Téhéran. Et puis, une page écologie en Europe où un chargeur unique obligatoire pour tous les appareils entre en vigueur aujourd'hui. Un parfum de règlement de compte, je le disais, en Syrie, où des vidéos d'exactions contre des civils alaouites se multiplient. Alaouites, c'est la communauté minoritaire d'où était issu Bachar el-Assad. Certaines factions alaouites, d'ailleurs, n'ont pas déposé les armes. Dans le même temps, les nouvelles autorités en Syrie ont arrêté ce jeudi un haut responsable du régime déchu, le général Mohamed Kanjo Hassan, qui était le responsable de la justice militaire. Il aurait condamné à mort des milliers de personnes lors de procès expéditifs. Pour Cédric Labrousse, doctorant à l'EHESS, cette arrestation est un signe de rupture entre le nouveau chef de Damas et l'ancien régime.
On voit qu'il y a une campagne très efficace, très rapide d'arrestation, avec la volonté de les avoir vivants. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire qu'il y a une volonté derrière d'agir dans un système judiciaire.
D'exemplarité, de montrer qu'on est mieux que l'adversaire.
Exactement, parce qu'on connaît les méthodes du régime. C'était la torture, c'était la prison, c'est sans jugement ou des jugements sans aucune preuve, sans défense. De la justice expéditive de tout régime autoritaire tel qu'on peut l'imaginer. HTS veut montrer qu'il y a une procédure, il y a d'abord des mandats, ensuite on se déplace, on arrête. S'il y a des combats, bien évidemment, ils répondent. C'est tout à fait légitime, si l'on se place en tout cas du point de vue d'une force de sécurité qui veut ramener l'ordre. Et oui, il y a vraiment une volonté de rupture avec l'ancien régime.
Des propos recueillis par Abla Junaidi. C'est la première visite qu'il pourrait recevoir depuis 10 ans. Abdullah Öcalan, leader fondateur du PKK, parti nationaliste kurde de Turquie, devenu groupe armé. Abdullah Öcalan va recevoir une visite sur son île où il se trouve depuis un quart de siècle. Annonce du parti pro-kurde de Turquie, DEM. Une visite donc sur son île où il est enfermé depuis 25 ans dans un contexte d'intenses négociations aujourd'hui entre Kurdes de Syrie, Turquie, guerriers russes du PKK et nouveaux pouvoirs de Damas. Et puis l'armée israélienne déclare avoir intercepté un missile en provenance du Yémen tôt ce samedi matin. Missile lancé au lendemain d'une frappe aérienne sur la capitale yéménite Sanaa, tenue par les Houthis alliés de l'Iran dans un affrontement avec Israël. En Iran justement, la journaliste italienne Cecilia Sala a été arrêté le 19 décembre par la République islamique, la veille de son retour prévu en Italie. Siavosh Ghazi.
Les autorités iraniennes ont gardé le silence sur l'arrestation de la journaliste italienne depuis le 19 décembre. L'Italie a dénoncé cette arrestation, qualifiée d'inacceptable. Elle était arrivée en Iran le 12 décembre avec un visa journalistique et devait rentrer au pays le 20 décembre. Si les autorités iraniennes n'ont fait aucun commentaire jusqu'à maintenant, cette arrestation intervient quelques jours après celle en Italie d'un jeune Iranien à la demande des États-Unis pour avoir violé les sanctions américaines contre l'Iran. Il s'agit de Mohamed Abedini qui devait se rendre en Suisse. Un diplomate italien et l'ambassadrice suisse ont été convoqués il y a quelques jours au ministère des Affaires étrangères qui a protesté contre cette arrestation. La question est de savoir si Cecilia Sala a été arrêtée en réaction à l'arrestation de Mohamed Abedini ou bien il y a d'autres raisons. En tout cas, par le passé, l'Iran a arrêté des ressortissants étrangers pour procéder à des échanges avec des Iraniens arrêtés dans différents pays occidentaux. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
Un peu d'Afrique maintenant, avec ce week-end de vote au Tchad pour élire les députés, les maires et les représentants locaux du pays. 3 élections simultanées, fin d'un chapitre, celui de la transition entamée en 2021 avec la mort de l'ancien président Idriss Déby. Ce samedi, ce sont les militaires et les nomades qui votent avant de s'élargir dimanche au reste des Tchadiens. L'un des principaux enjeux, l'abstention, alors que le scrutin est boycotté par une partie de l'opposition. Le calme va-t-il revenir au Mozambique ? Lui appelle en tout cas à la non-violence et à l'unité. Daniel Chapeau, le président officiellement réélu, s'est exprimé dans un communiqué ce vendredi. Son élection est contestée par l'opposition et une partie de la société civile. Il dit regretter les pillages et les violences que connaît le pays. Rien que cette semaine, 134 Mozambicains sont morts. Et les premières élections sénatoriales au Togo changent de date. Ce devait être le 2 février, ce sera finalement le 15, donc 13 jours plus tard. En 2009, Copenhague avait commencé à rêver d'une ville décarbonée d'ici 2025, c'est-à-dire qu'elle avait pour ambition de ne pas rejeter plus de CO2 que les puits naturels, comme les arbres, qui ne peuvent en absorber de manière infinie. Un pari quasi révolutionnaire à l'époque, un peu trop peut-être, car ce défi, la capitale danoise ne pourra finalement pas l'honorer. Othilia Ferré, comment expliquer cet échec ?
Il faut commencer par préciser que Copenhague a réduit ses émissions de 75% depuis 2005. La moitié des trajets se font désormais à vélo. La viande rouge n'est plus servie dans les écoles et les éoliennes tournent à plein régime. Mais ça n'a pas suffi. La faute en partie à son incinérateur de déchets emblématique de Copenhague qui n'a pas pu obtenir des fonds gouvernementaux dont il aurait eu besoin pour être en mesure de capter et de stocker ses émissions de CO2. Mais pour expliquer cet échec, il y a bien d'autres raisons, comme l'explique l'urbaniste danois Michael Colville-Andersen.
Les deux énormes parcs éoliens dont on avait besoin n'ont jamais vu le jour. Il n'y a eu aucune vision politique pour faire ce que Anne Hidalgo fait à Paris pour réduire le nombre de voitures. Ici, les gens achètent leur deuxième ou troisième voiture comme si c'était l'Amérique de 1962.
Et de nouveaux projets sont aussi venus compromettre l'objectif d'une ville neutre en carbone.
Il y a des projets d'infrastructures massives comme cette île artificielle de Lunedeholm avec les tunnels et les autoroutes qui vont être construits pour y accéder. À la base, l'objectif de neutralité de Copenhague était réalisable, honnêtement, mais on s'est reposé sur nos lauriers. C'est toujours une ville de référence, absolument, mais elle n'a pas continué sur sa belle lancée.
L'échéance est donc retardée, peut-être à 2026, 2027 ou 2028, selon la maire de Copenhague. À Stockholm, Othilia Ferré, RFI.
Ça ne se passe pas très loin de Copenhague. De plus en plus de navires de l'OTAN en mer Baltique. En clair, la mer qui longe la Russie et le nord de l'Europe. Un renforcement de sa présence maritime pour lutter contre les sabotages de câbles sous-marins. La Russie est en fait soupçonnée d'envoyer de faux bateaux de marchandises afin de sectionner ces câbles. Mercredi, par exemple, l'un d'entre eux a été sectionné. C'était le câble électrique en direction de la Finlande. Le prix de l'électricité, d'ailleurs, en France va baisser, moins 14% à partir du mois de février, annonce l'État. Électricité, toujours un seul chargeur pour tous les appareils vendus neufs en Europe, smartphones, tablettes ou encore écouteurs. Ils doivent tous désormais être équipés d'un port de charge type USB-C. Ça correspond à l'application d'une directive européenne adoptée il y a 2 ans. L'idée, c'est de réduire le gaspillage afin d'éviter la multiplication des chercheurs. Retour sur les objectifs de la mesure avec Jean-Jacques Herry à Bruxelles.
L'objectif premier de la mesure est de limiter la production de déchets électroniques, ce que favorisait jusqu'à maintenant la multiplication des câbles et des chargeurs de batterie pour des appareils de marques différentes. Voilà ce qu'en disait l'ancien eurodéputé socialiste belge Marc Tarabella le jour du vote de la législation au Parlement européen en octobre 2022. Il était alors membre de la commission de protection des consommateurs.
À l'avenir, on ne sera plus obligé d'acheter le chargeur qui va avec le téléphone si on a un chargeur chez soi qui fonctionne. Il y aura aussi une économie, en tout cas environnementale. Évidemment, ça génère des dizaines de milliers de tonnes de déchets, on estime à 11 à 13 000 au niveau européen, et nos tiroirs regorgent de chargeurs qui ne servent plus à rien.
Il y a également un objectif financier, réduire la facture pour les citoyens. Smartphones, tablettes, écouteurs, liseuses, tous ces appareils électroniques pourront en effet être vendus sans chargeur, et avec un même chargeur pour tous ces objets, l'économie pourrait être de 250 millions par an en Europe. Évidemment, si l'on calcule celle-ci par habitant, c'est beaucoup moins impressionnant. Cela représente une économie d'un peu plus de 50 centimes d'euros par an par consommateurs européens. En tous les cas, cette législation pionnière facilitera la vie des consommateurs, même si la simplification prendra plusieurs années, le temps que les appareils d'ancienne génération aux connecteurs non standards sortent des circuits de consommation. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
Devenir milliardaire en dollars du jour au lendemain, c'est arrivé aux États-Unis ce vendredi. Quelqu'un a gagné 1,2 milliard de dollars en jouant à une loterie. Mais ce n'est que là le cinquième plus gros lot de l'histoire. Le premier a atteint plus de 2 milliards de dollars. C'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. Tout de suite, c'est Carrefour du Maghreb sur RFI, le prochain journal dans moins d'une heure.